Et pour commencer ce soir, un concert, une annonce de concert, et puis surtout une annonce de concert, alors hyper rapide, c'est un concert qui m'est tombé dessus pendant jeudi soir, et donc je ne pouvais pas l'annoncer avant. Je crois d'ailleurs que les organisateurs disent que c'est un concert surprise, donc pas de problème. C'est un concert autour de Cardan et ses amis, enfin ses amis et compagnie plutôt, et surprise. Et donc c'est un concert qui aura lieu, enfin qui a lieu, qui est en train de démarrer là, qui a peut-être déjà démarré, mais enfin bon, avec le quart d'heure toulousain, on peut toujours espérer que les concerts démarrent un peu plus tard, donc ça permet d'arriver en retard, et d'en arriver en retard, il faut quand même qu'on attende. Alors si on attend, dans ce lieu, il y a de très bonnes bières, donc ça permet effectivement d'attendre dans de très bonnes conditions. Voilà, donc le lieu du concert, c'est IPN, rue des Jumeaux, 30 rue des Jumeaux, dans le quartier Bonnefoy, derrière le grand immeuble, un des plus grands immeubles de Toulouse, en tout cas sur cette partie, et sur le long du canal. Derrière le grand immeuble, vous avez la rue des Jumeaux, et au bout, vous avez IPN. Donc, ce soir, 20h, ça n'a certainement pas démarré, donc vous pouvez venir à toute vitesse. Pour ce qui concerne mon émission, eh bien, j'y serai, donc ça c'est une émission enregistrée, et si vous vous teniez absolument à écouter ce que je passe ce soir, eh bien, vous pouvez vous reporter au site et télécharger l'émission ou l'écouter en streaming la semaine prochaine ou ce week-end si ça vous plaît. Je pense que je la mettrai assez vite. En général, c'est quelque chose de très opératoire, donc très facile. Il suffit simplement de prendre un tout petit peu de temps. Voilà. Et l'émission continuera, en tout cas pour ceux qui ne veulent pas aller à ce concert, ce qui serait une erreur quand même, parce que en fait c'est toujours difficile de rendre compte d'un concert, et je pense que c'est une musique assez originale, en tout cas il y a des choses à y entendre, donc je vous donne plutôt rendez-vous à IPN dès 20h15 ou 20h30 pour le concert de ce soir, dont je vais parler tout de suite. À signaler que bon, je vous donne rendez-vous, c'est pas une raison pour venir me voir ou même pour penser que je tiens à rencontrer absolument mes auditeurs. Non, je serai très discret comme d'habitude, plutôt en train de boire et d'écouter la musique. Voilà, je ne suis pas incontournable. Donc, un concert à IPN, Cardan, Copilote du Ciel, Latitude. Un petit peu de détails sur ces concerts, si j'arrive à m'en sortir. Voilà. Donc Cardan, c'est de la trance fabriquée à Marseille avec une cabrette occitane, une guitare noise et un daf kurde. Ça fait danser dans la tête et le corps. Et on va en écouter un morceau. Copilote du ciel, c'est Romain Simien et Fabien Ruoz de Toulouse. C'est de la musique électronique qui évolue lentement. Et Latitude ou Latitude 2250, Walkin Rodriguez et Ervan Lamer, toujours de Toulouse. C'est un duo de trompette-batterie. C'est de l'improvisation, enfin des musiciens qui sont portés sur l'improvisation et le free jazz. Donc tout ça, c'est ce soir. Enfin, c'est ce soir, oui, à 20h. Donc c'est 30 rue des Jumeaux. Voilà. 20 DPI Dièse 3, Cardan. Cardan des surprises. Donc Cardan, Copilote du ciel et Latitude. Voilà, tout ça, c'est à 20h. Jusqu'à 23h, vous pouvez encore peut-être rater la première partie, mais vous verrez la deuxième et la troisième. Et on écoute Cardan.
Dead in Toulouse, oh yeah, now fio, sum pas amuroso. Dead in Toulouse, oh yeah, now fio, sum pas amuroso. Dead in Toulouse, oh yeah, now fio, sum pas amuroso.
Thank you.
Donc, vous voyez pourquoi il faut abandonner vite l'écoute de cette émission et se précipiter à IPN pour ces trois concerts qui ont peut-être pas encore démarré, puisqu'il doit être 20h11 ou 12. Et donc, vous avez encore le temps d'aller à IPN. Je sais pas si loin, Toulouse n'est pas si grande. On peut traverser la ville en un quart d'heure. Donc, voilà. Donc, on se retrouve à IPN. Et puis, pour ce qui est de l'émission, eh ben, vous l'écouterez un peu plus tard en différé si ça vous fait plaisir ou si ça vous chante. Voilà. On continue. Ce soir, nous sommes le 28 avril et dans quelques jours, ce sera le 1er mai, la fête des travailleurs. C'est aussi une fête celtique, c'est le jour de la fête de Beltane. Beltane, c'est la date à laquelle les Celtes passaient de la saison sombre à la saison claire. Elle est en opposition avec Halloween. Chose exceptionnelle cette année, la fête des travailleurs se situe dans un cycle. Enfin, exceptionnel, ça a dû peut-être se produire déjà, mais ça se situe dans un cycle électoral. Pas spécialement envoûtant, le cycle électoral, mais bon, il est là. En tout cas, ce sera l'occasion de faire plusieurs dédicaces. Donc, une dédicace à tous ces lycéens qui manifestent. Et il y en a quelques-uns qui sont passés dans ma rue, d'ailleurs. Et qui, en criant « Pas de patrie, pas de patron ». D'ailleurs, première dédicace. Deuxième dédicace pour les employés de Whirlpool. Et puis, qui vont se faire virer, quelle que soit la suite des événements. Et une spéciale dédicace à tous les ouvriers qui se sont fait virer durant le dernier quinquennat et à ceux qui se feront virer durant le prochain. En 1889, le syndicaliste Raymond Lavigne propose que chaque 1er mai, on manifeste pour obtenir que la journée de travail soit réduite à 8 heures. De là, cette date devient la fête du travail. Aujourd'hui, le 1er mai, c'est pour pas qu'on revienne aux 8 heures. Mais ça va être compliqué, surtout avec les gaziers qui risquent de se faire élire. Histoire de la misère et de la désolation, Luc Ferrari. Vous êtes donc au concert d'Hyperne, sinon, bon, eh bien, on continue. On continue avec le droit à la paresse de Paul Lafargue. En fait, voilà, j'ai une sorte de calendrier littéraire, je crois que ça s'appelle. C'est 365 jours de littérature, édité par Gallimard. J'ai regardé ce qu'il y avait le 1er mai. Et le 1er mai, il y a cette phrase. Notre époque est, dit-on, le siècle du travail. Il est en effet le siècle de la douleur, de la misère et de la corruption. Le droit à la paresse, Paul Lafargue, 1883. Et puis, pour illustrer ce droit à la paresse, ou pour illustrer le 1er mai, c'est à peu près pareil, un extrait des Trésors de la langue de René Lucier. Or, vous connaissez ce principe, c'est durant, je pense, les élections sur l'indépendance du Québec. Alors, je ne me rappelle plus exactement qui était le Premier ministre à cette époque, mais enfin bon, voilà. Et René Lucier enregistre des sons de la ville. Il y a aussi le passage de Gaulle à Montréal, qui dit « Vive le Québec libre ». Et puis il y a aussi différentes réactions de tous les gens dans la rue qui parlent, des discours politiques qui s'entremêlent. Notamment aussi la prise du parlant du Front de libération du Québec. Et là, c'est un moment où un syndicaliste dit ce qu'il va faire, ou ce qu'il devrait faire. Non, ce qu'il va faire. Et ça reste très d'actualité.
Comme on a fait toutes les démarches, tranquillement, poliment, respectueusement, auprès de tous les gouvernements, là, on va redoubler d'ardeur pour botter le cul de tous les patrons inconsidérément. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
Parce que le lendemain, il est à la soirée du moment.
C'est ça qu'on va faire.
Ah, c'est du fou, ouais. Prends confiance, il fait attention, il plume la couille du cochon, puis il fout dans le bout du cochon, puis il fout dans le monde.
C'est ça qu'on va faire.
Il y a des hommes de fusil avec des fusils qui viennent, avec tous les fusils à la main.
C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
Il saute, il se bourgeois, il saute.
C'est ça qu'on va faire.
Dans mon matin, le soleil, c'est tout.
Libération du Québec. Manifeste. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. Mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial,
le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. La loi sur les mesures de guerre accorde au gouvernement des pouvoirs très étendus. Elle met aussi en suspens l'application de la Déclaration canadienne des droits de l'homme.
Oui, il y en a des raisons à la victoire libérale. Oui, il y en a des raisons à la pauvreté, au chômage, au taudis. Oui, il y en a des raisons, et les gars de la Lore les connaissent, les pêcheurs de la Gaspésie, les travailleurs de la Côte-Nord, les mineurs de la Iron Ore, de Québec Cartier Mining, de la Noranda les connaissent eux aussi ces raisons. Oui, il y en a des raisons pour que vous, M. Tremblay, de la rue Panay, vous ne puissiez vous payer des vestes d'or avec de la belle zizi et du Pink Flag, comme l'a fait Dracou, l'aristocrate. Oui, il y en a des raisons pour que vous, Mme Lemay de Saint-Hyacinthe, vous ne puissiez vous payer des petits voyages en Floride, comme le font avec notre argent tous les sales juges et députés. Oui, il y en a des raisons pour que vous, les assistés sociaux, on vous tienne de génération en génération dans la bière du chien à Molson. Il y en a des tas de raisons. Les travailleurs de la Dumpcar à Windsor et à East Angus les savent. Les travailleurs de la Scoob et de la Ayers, les gars de la Régie des Alcools et ceux de la 7-Up et de Victoria Precision, les cols bleus de Laval et de Montréal, les gars de la Palme en savent des tas de raisons. Nous en avons soufflé le fédéralisme canadien qui place la nation québécoise au rang des minorités ethniques du Canada. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés, terrorisés par les grands patrons. Steinberg, Clark, Bronfman, Smith, Nipple, Timmons, Geoffrion, J.L. Lévesque, Urshorn, Thompson. Repeat after me. Cheap labor means main-d'œuvre à bon marché. Ces big boss de l'économie et de la politique travaillent à toutes les bassesses pour mieux nous fourrer. Terrorisés par l'Église capitaliste romaine, même si ça paraît de moins en moins, terrorisés par les lieux fermés de la science et de la culture que sont les universités, travailleurs de la production, des mines et des forêts, travailleurs des services, enseignants et étudiants, chômeurs, prenez ce qui vous appartient, votre travail, votre détermination et votre liberté. Faites-vous-même votre révolution dans vos quartiers, dans vos milieux de travail. Vous seul êtes capable de bâtir une société libre. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris, un peuple en réveil. Vive le Québec libre, vive les camarades prisonniers politiques, vive la révolution québécoise, vive le Front de libération du Québec.
Les trésors de la langue, René Ducier, un disque à découvrir et à redécouvrir. Je ne sais plus trop par qui il est édité, mais on doit trouver ça sur le catalogue d'empreintes digitales qui est distribué par Metamkin. Donc tout ça, vous trouvez ça sur Internet sans aucun problème. Ensuite, on va passer à un autre extrait qui pourrait illustrer le 1er mai et qui est quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est, alors, en anglais... Je ne savais pas que ça voulait dire ça. Enfin, j'avais bien compris que quelque chose était l'arme du prolétariat. Alors, the cobblestone is the weapon of the proletariat. Alors, ça veut simplement dire que le pavé est l'arme du prolétariat. C'est une œuvre d'un musicien suédois qui s'appelle Leif Elgren. Le pavé est l'arme du prolétariat. On va écouter le morceau quelconque puisqu'ils ne sont pas numérotés, hein, c'est-à-dire ces sept déclinaisons du pavé est une arme pour le prolétariat. C'est une musique électronique et puis on trouve un peu plus loin le Nord est protégé et la chanson de la fin. Alors le son de ces 10 compositions, de ces 10 chansons du pavé sur ce CD viennent d'un enregistrement qui a été fait un enregistrement fait en jetant un pavé dans la rue en dehors des éditions Fireworks. Et le titre se réfère à un bronze, à une sculpture en bronze par l'artiste russe Ivan Chakir, 1887-1941, certainement un artiste très stalinien, et qui s'appelle Le pavé et l'arme du prolétariat, 1927. Oui, 1927, il est déjà stalinien. Allez, pavé et l'arme du prolétariat. Il faut quand même continuer à s'en souvenir. Le pavé n'est pas l'arme du prolétarien, parce que le prolétarien, ça n'existe pas. Je ne sais même pas ce que ça pourrait vouloir dire. Ça serait certainement péjoratif. Non, le pavé est l'arme à la limite du prolétaire, mais surtout du prolétariat. Et il faut s'en souvenir. À la fois en pensant au 1er mai et en pensant aussi à ce qui se passe en ce moment-là, c'est-à-dire les élections, on peut quand même se poser sérieusement la question de ce qu'on va faire du social, enfin de ce qu'on appelait social il y a quelques années. Et aujourd'hui, je me demande bien à quoi ça peut répondre. En tout cas, en ce qui concerne la suite sociale de cette décennie, ça risque de chauffer. Et nous serons vigilants à tout ce qui peut être antisocial, anthrax.
Yeah.
Dès qu'on fait référence au mois de mai, je pense immanquablement au film de Chris McCracker et de Pierre Lhomme qui s'appelle Le Joli Mai, un film qu'ils avaient réalisé, c'est-à-dire un documentaire qu'ils avaient réalisé en 1962 du temps des accords d'Évian et où ils interrogeaient la population parisienne de toutes sortes, que ça puisse être des gens un peu de tous les bords, du boursier jusqu'au vendeur de pantalons et au prolo ou à des gens dans la précarité qui viennent de trouver un appartement. Ben, voilà, c'était un paysage de la France en 1962, une sorte d'instantané sur ce qu'était la France à ce moment-là. Et ce qu'il y avait d'intéressant à l'intérieur de ce film, enfin, en dehors de tout un tas de choses et de la valeur des témoignages et de surtout le décalage qu'on peut avoir avec aujourd'hui. Il y avait un moment, un débat, une discussion entre le réalisateur du film et deux ingénieurs conseils qui parlaient de l'avenir. Et dans cet avenir, on y retrouve beaucoup d'éléments qu'on vit aujourd'hui et puis quelques petits aménagements qui auraient pu être et qui n'ont pas été et qui ne seront plus. Donc je vous laisse en compagnie de ce film et on écoutera aussi enfin la chanson d'Yves Montand sur ce joli mai. Voilà, je pense que ça conclura peut-être l'émission. Le joli mai de Chris Marker et Pierre Lhomme, un film à redécouvrir, je crois qu'il est en vente, on le retrouve, il a été remasterisé et c'est vraiment quelque chose d'indispensable.
Moi, je gagne 46 000 francs par mois. J'ai 8 000 francs de chambre à payer par mois. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça, hein? 8 000 francs de chambre à payer tous les mois, je gagne 46 000 francs par mois. Hein? Et si tout le monde y faisait grève d'un coup, ben, ça ne durerait pas longtemps parce que le gouvernement serait obligé d'accoucher.
On peut vous demander combien vous gagnez?
Bah oui. Je passe à la paye avec tout compris. Avec les primes, sans prime rien, 42 000.
Évidemment.
Je fais une deuxième journée.
Faites une deuxième journée?
Oui, monsieur.
Pour pouvoir vous entrer?
Ah oui.
Et vous faites combien d'heures de travail?
Je fais 8 heures, je fais 7 heures ici et 8 heures pour notre travail.
Parce que les cheminots, ils sont lésés.
Oui.
Hein, des salaires de famine, oui, j'arrive.
Vous avez eu votre grève, vous n'avez pas eu entièrement satisfaction?
Ah non, aucunement.
Vous allez en mettre ça?
Quand il le faudra, tout de suite, on est prêt à mettre ça 4 heures.
Aujourd'hui, c'est la grève de l'électricité.
Ah oui.
Vous êtes solidaire avec la compagnie.
Évidemment.
Comment vous voyez l'avenir?
Oh, pas joli. Parce que, vous savez, moi je me demande comment ça va se terminer. Parce qu'avec les guignols qu'on a là-haut, hein, ma confiance. Oui, je m'en vais, je m'excuse, je fais un train.
Moi, j'ai tiré qu'à 30 mètres pour voir ce que je vois, hein, mon pote.
Bien sûr, on dit le gars, mais hey, regardez mes mains, regardez mon pouce, regardez un petit peu comme je suis arrangé. J'ai 60 ans, je suis encore obligé de travailler, puis la retraite, elle n'est pas encore pour demain. Alors, devant tous ces trucs-là, le gars qui a... Ben, il se met en colère et puis il dit, je fais grève, j'ai que ce moyen-là. Il a que ce moyen-là, le gars, de faire la grève. Il peut pas aller se battre avec le patron, non. Il dit, on veut pas me donner de quoi manger. Je demande que de quoi manger, de quoi pas être comme ça. Mes gosses soient... Regardez mes godasses, elles sont même pas bons, ben... Alors là, on peut qu'approuver ces gens qui... Par exemple, moi, j'estime que ces gens, en ce moment, ils font la grève, mais ils font la grève pour moi aussi.
Et tout à l'heure, vous posiez la question, il est tout... même celui qui utilise le chemin de fer ou le métro, ou voire l'EDF, comprend très bien la situation et n'a pas de raison d'en vouloir à un employé.
Ça veut penser qu'il y a une solidarité, finalement,
c'est normal.
Sur les revendications.
Oui, c'est
monde.
Exact.
Et oui, monsieur. À votre avis, quel est l'événement le plus important du mois de mai?
Moi, c'est les pommes de terre qui ont atteint 220 francs. Je trouve que c'est un résultat absolument remarquable. Il y a aussi eu un événement sensationnel. Il y a eu le fait que la radio a annoncé un grand renfort de discours, Didier Rotrip, disons, qu'aucun vieux ne toucherait plus maintenant moins de 11 000 francs par mois. C'est quelque chose qui est absolument réjouissant. On sait que tous ces vieux vont se mettre à faire des noces épouvantables avec leurs 11 000 francs par mois. Et on a même été jusqu'à annoncer comme une victoire, n'est-ce pas, et un signe de grandeur de la France, que dans 3 ans, il n'y en aurait plus qu'il y aurait moins de 15 000 francs par mois. Ben, je trouve ça absolument sensationnel. Et pour moi, comme pour d'autres, le reste n'est que péripétie à côté de cette grande victoire remportée par les vieux.
Et alors, qu'est-ce que vous attendez des mois qui viennent?
Ben, on espère toujours une petite amélioration, surtout des conditions de travail.
Ouais.
Il semble que ça serait celui qui peine, qu'on n'ait pas de revoir toutes ces grèves-là. Hein, si on pouvait gouverner, c'est prévoir, on dit toujours.
Donc pour les gens, c'est un peu comme la ligne d'horizon, vous savez, c'est... on ne rejoint jamais. De toute façon, il faut 30 ans pour l'atteindre, et puis au bout de 30 ans, c'est encore 30 ans. C'est nos enfants. Alors qu'en réalité, en ce moment, il se passe une chose extraordinaire, c'est que l'avenir est en avance sur nous. C'est-à-dire, on est en retard, enfin, on est en retard sur l'heure actuelle. Nos rêves sont trop courts pour ce qui existe déjà. Il y a de grosses révolutions qui se préparent par les faits, si vous voulez. Alors qu'on est en train de rêver de loisirs, qu'on est en train de rêver de, je sais pas moi, d'un tas de choses, en réalité, la réalité est déjà au-delà de nos rêves, si vous voulez. Ce que je trouve dramatique, c'est que l'univers s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Vous avez l'air étonné.
Oui, parce que vous parlez justement de ce qu'on pourrait faire au sujet des loisirs, au sujet des améliorations.
Oui, mais voilà, justement.
Ça me paraît être de l'avenir, mais pas du tout.
Mais voilà justement le drame, c'est que maintenant où on pense en ces termes-là, on revient très exactement à une organisation des loisirs, c'est-à-dire que les vieux modèles, dans lesquels d'ailleurs les ingénieurs conseillers ont réussi à partir de 36, à cause même de la nécessité de penser en termes rationnels, les vieux modèles continuent à s'imposer alors qu'il ne s'agit plus de tout ça. Enfin, les loisirs, c'est par définition le non-travail. On va penser le non-travail en termes de travail.
Je vois ça beaucoup plus simplement. Il me semble que petit à petit, on arrivera par le machinisme, par l'automation, l'automatisation, comme vous voudrez. Je ne me disais pas sur les termes. On arrivera à faire que la semaine de 40 heures passera à 30 ou à 25, et à ce moment-là, automatiquement, le travailleur aura plus d'heures à ne pas travailler.
Oui, mais c'est un problème grave.
C'est pas ça.
Vous êtes un exemple des freins qui existent contre les loisirs, en disant petit à petit, on arrivera à 30 heures. Vous savez qu'actuellement, on pourrait déjà arriver à la... On pourrait déjà, demain, on pourrait instaurer la semaine de 30 heures. Il n'y a que des obstacles moraux.
Dans beaucoup d'industries, on a dépassé... les structures de lutte contre la rareté, c'est tout ce qui caractérisait le 18e et 19e siècle, c'est-à-dire le fait que si on ne travaillait pas, on crevait, quoi. On a tout à fait dépassé dans beaucoup d'industries, mais on fait comme si on ne l'avait pas dépassé. C'est très important de savoir qu'en fait, effectivement, beaucoup d'industries pourraient travailler 30 heures semaine, par exemple, mais ne le font pas.
Les freins en question dont vous parliez, tout simplement, c'est que le patron n'a pas intérêt.
Non, absolument pas. C'est les gens, les Français moyens, vous comme moi. Vous voyez comme vous êtes réticent vous-même. Vous ne prenez pas tout à fait au sérieux.
Je ne suis pas réticent du tout. Je souhaite qu'on travaille le moins possible et qu'on se repose le plus possible.
C'est un souhait. Tout le monde en est là. Tout le monde en est là.
Que faudrait-il faire pour que ce souhait se réalise?
Que faudrait-il faire? Vous voyez, ce conditionnel déjà.
Alors que faut-il faire?
Ça me choque.
Qu'est-ce qu'on fait?
Non. Comment se fait-il qu'on ne le fasse pas?
bon. Et ça...
Enfin, écoutez, c'est quand même une chose.
Votre bon et ça, ça signifie que vous n'y croyez pas.
Si, si.
Mais c'est vrai.
Je l'imagine.
C'est vrai, mon petit père. Parce que regardez par la fenêtre, regardez les gens qui travaillent. Ce qu'on appelle les gens qui travaillent. Il y a très peu d'ouvriers. La plupart des gens, que font-ils? Ce sont des gens qui font des additions, des soustractions, des statistiques, etc. Ce sont des improductifs, enfin des commerçants. Les trois quarts des gens qui prennent le métro, ce sont des gens qui ne travaillent pas de leurs mains, qui travaillent, qui tripotent l'information. Eh bien, actuellement déjà, hein, il existe des machines.
Ces machines sont actuellement tellement mal utilisées que c'est comme si elles n'existaient pas. Seulement, elles existent. C'est-à-dire que de plus en plus, quand même, des gens se disent, mais si, on pouvait l'utiliser mieux. Et à chaque fois qu'un pas est fait, c'est effectivement une structure qui croule. C'est-à-dire une inutilité qui se manifeste.
Alors, si je comprends bien, d'ici très peu de temps,
oui, je crois, ça je crois.
Grâce à ces machines, tous les improductifs en question vont se trouver sans travail.
Non, vont se trouver sans prestige. C'est très différent.
Sans prestige ou sans travail?
Alors, tout un problème de structure, ou bien on leur inventera du travail, mais de toute manière, ils auront perdu ce prestige. Parce que jusqu'ici, ils pouvaient croire à ce qu'ils faisaient, mais ils ne peuvent plus croire à ce qu'ils font à partir du moment où des machines le font mieux qu'eux.
Mais il y a déjà eu une surprise pour l'abonné du gaz ou de l'électricité, c'est d'avoir ces petites fiches carforées. Et il a eu l'impression qu'on le volait, qu'on le trompait, qu'il n'avait plus le moyen de vérifier. Il ne vérifiait pas du reste avant.
Oui,
est-ce que par la suite, on ne va pas être appelé, si ces machines prennent de plus en plus d'importance, à ne plus rien comprendre?
Ça alors vous posez un autre problème qui est qu'il est possible que le monde de futur se divise en deux clans terriblement contrastés qui sont les initiés et non initiés. C'est évidemment un problème.
Joli, mais c'était tous les jours fête. Il était né coiffé de muguet. Sur son cœur, il portait la rosette, la légion du bonheur, joli mais. Sur son cœur, il portait la rosette, la légion du bonheur, joli mais. On l'a gardé le temps de le croire. Il est parti pendant qu'on dormait, emportant la clé de notre histoire. Joli mais ne reviendra jamais, emportant la clé de notre histoire. Joli mais ne reviendra jamais. Joli mais notre amour était brève, l'été vient qui mûrit le regret. Le soleil met du plomb dans les rêves, sur la lune on affiche complet. Le soleil met du plomb dans les rêves, sur la lune on affiche complet. Joli mais tu as laissé tes songes dans Paris pour les enraciner. Ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année. Ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année.
Pour terminer cette émission autour du mois de mai, à chaque fois que j'entends parler de prolétaires, enfin, ou de conditions ouvrières, je pense souvent à la Strada. Et pourtant, aujourd'hui, je sais que Zampano était un auto-entrepreneur en voie d'ubérisation. Triste de se rendre compte de ça aujourd'hui. La Strada, Jackie Bayard.